auditeurs, chères auditrices de Mets de Résistance 88.4, Radio Galère à Marseille, bonjour. Nous reprenons aujourd'hui sur les petites émissions concernant l'économie du développement et mon article « L'Afrique à l'épreuve des défis d'aujourd'hui et de demain », un article qui est assez long. Et que je résume sous forme d'émission. C'est la quatrième émission sur l'Afrique. La dernière, on l'a passée deux fois de suite. C'était la semaine dernière et la semaine d'avant. Et aujourd'hui, on passe à la suite. Donc la dernière fois, on avait expliqué deux ou trois choses qui étaient importantes sur le progrès technique et sur l'environnement et sur la manière de tenir compte de l'environnement dans la fonction de production. J'avais entre autres évoqué la théorie des facteurs endogènes de la croissance qui provient de l'école l'école de la croissance endogène. Notamment, on a un économiste qui s'appelle Lucas qui a développé des théories de la croissance endogène qui permettent de tenir compte de facteurs externes à la fonction de mise au point par solo, la fonction de la fonction de production, comprenant qui tient compte du capital et du travail pour calculer la valeur ajoutée produite. Il y avait un facteur qui a été très important au XXe siècle, qui est le progrès technique. On s'est rendu compte que ça rendait, à défaut de rendre les rendements croissants, ça les rendait au moins à défaut constants pendant un temps, croissants pendant un temps, puis constants, puis enfin décroissants, puisque en fait tout rendement vise à devenir un jour décroissant. C'est peut-être à discuter, mais a priori, c'est ce que la théorie économique a déterminé. Pour Solow, le progrès technique était un résidu extérieur que l'on rajoutait à la fonction de production. Et puis, il y a eu les théories de la croissance endogène qui ont internalisé le progrès technique pour l'insérer dans la fonction de production. Et moi, je proposais de faire la même chose avec un nouveau facteur qu'on appellerait l'environnement et le foncier. Si je me suis un peu trompée d'ailleurs la semaine dernière, puisque j'ai dit que j'ai parlé, je crois bien que j'ai pas cité les théories de l'école de la croissance endogène. Donc c'est bien l'école de la croissance endogène qui a endogénéisé le progrès technique, alors que Solow, lui, s'était contenté de considérer ce dernier comme un simple résidu que l'on rajoutait, on ne sait pas comment, mais en tout cas qui ne faisait pas partie de la fonction de production. Vous allez trouver ça bizarre, chers auditeurs, que j'insiste autant ces théories économiques qui donnent lieu à de l'économétrie. Et l'économétrie, c'est la science des mathématiques appliquée à l'économie et qui essaye de mettre en avant des modèles prédictifs qui permettraient d'éclairer davantage la théorie économique. Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de ces modèles-là si on veut faire de l'économie, même si l'économie plus littéraire, c'est aussi très important parce que ça permet de vulgariser et de faire comprendre à tout le monde ce que c'est que l'éco. Et si j'insiste autant, vous allez me dire quel est le rapport avec la croissance et le développement en Afrique. Ben, tout simplement, c'est très important de comprendre à quel point le fait de rajouter le facteur environnemental dans la fonction de production peut aider les États africains à développer leur avantage comparatif de façon à pouvoir rivaliser un jour avec les pays les plus développés. Peut-être que cette manne qui est dans la nature, qui est l'environnement, va permettre un jour d'arriver à cette espèce d'utopie selon laquelle les pays du continent africain pourront rivaliser avec l'Occident et développer leur économie avec leurs propres atouts et non pas des réserves naturelles qui sont vouées à un jour à diminuer et non plus avec des investissements qui proviennent de l'étranger et des pays en développement. Pourquoi est-ce que j'insiste autant là-dessus ? Ben parce que c'est important aujourd'hui de faire du développement et de la croissance économique sans générer des coûts de transaction et d'opportunités qu'occasionne le désencastrement. Karl Polanyi, que j'ai cité plusieurs fois déjà au cours de cette émission parce qu'il est très important, qui avait écrit La Grande Transformation en 1945, parce qu'à une époque où déjà il remettait en cause le grand capitalisme, alors même qu'on n'était pas encore arrivé au pire, c'est-à-dire à la grande consommation, production et à la grande consommation de masse, va occasionner, Polanyi nous disait, il faut réencastrer, c'est-à-dire réconcilier l'économie avec le politique et le culturel et faire en sorte que l'économie marche avec les sociétés. Or aujourd'hui, plus le temps passe, et moins c'est le cas, puisqu'on crée des biens et des services qui souvent n'ont pas de rapport avec les réels besoins de la société. Je pense notamment à la filière inversée. Je vous avais cité la dernière fois le cas des téléphones portables qu'on change tous les 3 mois. Et puis, je vous avais cité aussi le phénomène... le phénomène qui consiste à produire des biens et des services semi-durables qui en fait ne sont pas des vrais biens et services semi-durables parce que ils s'abîment très vite. Je pense notamment à l'électroménager et que ça c'est fait exprès pour que les gens puissent consommer. Karl Polanyi n'osait pas encore le dire à son époque parce que c'était encore tabou et complètement fou tant on opposait nature à culture. Mais le réencastrement se joue non seulement à travers le fait de réconcilier l'économie avec la société et de permettre le financement, de permettre par exemple à ce que la sphère monétaire et les biens monétaires s'aligne avec l'économie réelle, alors qu'aujourd'hui on a des flux financiers qui sont complètement déconnectés il y a aussi autre chose qu'il faut utiliser pour le réencastrement. C'est mettre en avant l'environnement, car le réencastrement se joue aussi à travers le sol et l'environnement naturel. Là-dessus, je pense notamment à un économiste comme Murray Bookchin. C'est quand même très très important de penser aux 5 facteurs. 5 facteurs de production, capital, travail, environnement, foncier et capital humain. Innovation. Alors là, on peut discuter et se demander si l'innovation et l'innovation et le progrès technique, ainsi que le capital humain, la créativité, peuvent aller ensemble. Cela dit, je trouve quand même que ces discussions manquent aujourd'hui à la sphère de l'actualité économique. On n'en parle pas beaucoup, alors que c'est un phénomène qui est crucial. Et je ne comprends pas que les économistes ne discutent pas suffisamment de cette comparaison, de cette question des facteurs de production. Pendant très longtemps, on a pensé qu'il y avait deux facteurs de production. On en a rajouté un troisième pour l'agriculture. Mais il y en a aussi d'autres. Il y a aussi le capital humain. Et puis, il y a l'environnement et le progrès technique qui sont trois autres facteurs de production qu'il va falloir mettre dans des cases. Je pense que la théorie économique est amenée aujourd'hui à redéfinir la fonction de production. Parce que, et d'ailleurs, ça ne pourra que faire du bien. Cela générera ce que Karl Polanyi appelle le réencastrement. J'ai expliqué un petit peu ce que c'était tout à l'heure. C'est pas évident, c'est-à-dire que le capitalisme monopolistique ou oligopolistique tel qu'il existe aujourd'hui supprime et met à mal l'harmonisation de la structure de la société ainsi que des individualités avec le secteur économique. Cela porte drôlement préjudice à l'évolution de l'humanité ainsi que à la coopération entre États et entre individus. On est sur un paradigme qui est entièrement concurrentiel. Alors bien sûr, moi je suis entièrement pour une libre concurrence, et d'ailleurs j'apprécie beaucoup les théories de Léon Valras sur la concurrence pure et parfaite. Et puis, mais cela dit, la concurrence pure et parfaite, ça reste une théorie économique de laquelle il faut se rapprocher le plus possible, et celle-ci exclut même l'idée même du monopole ou de l'oligopole. Donc on doit viser de plus en plus vers une économie qui est d'abord territoriale et qui est formée de petits producteurs. C'est très important. De petits producteurs, mais ça ne veut pas dire que ces petits producteurs sont isolés. Au contraire, ils se regroupent entre eux et au lieu de se concurrencer les uns les autres sur un même territoire, ils se regroupent entre eux pour se complémentariser. De même que sur un territoire entier, national, les groupements producteurs des différents territoires qui forment le territoire national ne se concurrencent pas non plus les uns et les autres. Ils se complémentarisent et forment tous ensemble l'avantage comparatif national qui va permettre à l'État de défendre ses positions en commerce international. C'est une théorie du commerce international qui est tout à fait compatible avec les théories de Ricardo du libre-échange que l'on a très mal comprises parce que ces théories-là sont fondamentales et on ne peut pas passer à côté, c'est la base même de notre théorie économique qui est valable pour tous les États du monde et non pas seulement pour les pays occidentaux. Le fait qu'il n'y ait plus de concurrence pure et dure entre États avec toutes les tricheries que cela suscite. Et en matière de tricherie, je pense notamment à la question de la qualité, de la valeur ajoutée qualitative, puisque cette concurrence-là a conduit, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à faire de la filière inversée, c'est-à-dire à créer des produits qui ne sont pas de vraies innovations, qui ne comportent pas de vraies innovations, qui sont là juste pour créer un effet de publicité, pour inciter les consommateurs à consommer sans que ça leur apporte grand-chose et sans que ça apporte grand-chose à la société, ainsi que l'obsolescence programmée, qui consiste à faire de la mauvaise qualité sur des biens semi-durables qui en fait deviennent des biens non durables, si on fait de la concurrence, si on fait de notre monde économique un socle qui repose non plus sur des grandes firmes qui se concurrencent les unes les autres à coup bas, en se rachetant les unes et les autres et en générant des flux financiers complètement déconnectés de la sphère économique, là on fait du réencastrement sur les territoires et on aboutit à un véritable système de concurrence pure et parfaite. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est très important et c'est pour ça que j'en parle, parce que l'Afrique, elle, est moins engagée dans la concurrence monopolistique ou oligopolistique, même si elle en subit le contre-coup depuis très longtemps. Et cette concurrence-là, elle va devenir obsolète, et les pays africains là-dessus, comme ils ne sont pas trop engagés dans la concurrence monopolistique et oligopolistique, ils vont pouvoir un jour peut-être trouver la place qu'ils méritent sur le globe. C'est très important. Voilà. On va se mettre une petite musique maintenant. J'aime beaucoup Fela Kuti. Je propose qu'on se mette Fela Kuti, qui est un musicien qui est très important en Afrique. Et je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est un musicien nigérien. C'est quelqu'un qui est exceptionnel. Ses enfants chantent toujours aussi, eux aussi font de la musique. Je vais vous passer Lady. J'aime beaucoup cette chanson-là.
Our riches then take away to their land. In return, they give us their colony. Then take our culture away from us. Them give us them culture we no understand. Black people, we no know ourselves. We no know our ancestral heritage. We dey fight each other every day. We're never together at all. We're never together at all. That is why black man they suffer today.
That is why black man they suffer today.
Tell me again.
That is why black man they suffer today.
They take our culture away.
That is why black man they suffer
today. They take our riches away.
That is why black man they suffer
today. They take our land from us.
That is why black man they suffer
today. They take our people away. We have to think of time to come. We have to think of our children to come. We have to be together and unite. That is why Black Monday suffer today. That is why Black man don't go for moon today. That is why Black man don't get money today. That is why Black Monday suffer.
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 That is why Black Monday suffer today.
That is why Black Monday suffer.
That is why Black Monday suffer.
That is why Black Monday
Voilà, chers auditeurs, c'était Fela Kuti, Lady. Le fait de prendre en compte les cinq facteurs de production et de modifier la fonction de production permet d'aller vers un niveau de production de richesse plus important et de couvrir les besoins de tous. En effet, les facteurs de production nouveaux incluent des biens communs, des biens à double nature, développement du capital humain, diffusion des innovations, capital environnemental, capital paysager. J'ai oublié cette composante-là aussi, il y a bien sûr le paysage. Et Dieu sait, si en Afrique, on a des paysages magnifiques. Et je pense aussi aux appellations d'origine contrôlée ou à ce qu'on appelle les indications géographiques. Tous ces facteurs sont soumis à certains impératifs qui engagent des coûts pour les entreprises, mais également pour la collectivité, notamment par les transferts publics, afin de les entretenir. À l'inverse, ils sont générateurs d'externalités positives pour chacun des acteurs de l'économie, y compris pour les ménages, que l'on peut quantifier, et constituent une sorte de rente qui augmente les ressources réelles de chacun. En quelque sorte, cette notion de bien commun qui intervient entre la production et l'utilisation des matières premières pose l'exigence de mettre en avant le foncier et les potentialités de créativité pour produire et créer une interface qui permet de réaligner le processus économique avec le monde tel qu'il est, avec son aspect écologique et les êtres humains. En d'autres termes, cela opère ce que Karl Polanyi appelait le réencastrement dans La Grande Transformation, paru en 1944, et non pas en 1945, pardon, je me suis un peu trompée tout à l'heure. La déclinaison du facteur capital en plusieurs parties et la reconnaissance de l'existence de cinq facteurs principaux permet de tenir compte de l'intégralité du processus de création de richesses. L'histoire de la science économique aurait ainsi effectué une boucle en partant de la terre, mère de tous les biens. Ça, c'est François Quenet, le père des physiocrates. C'est eux qui ont commencé à faire les premières théories économiques. C'était avant même les mercantilistes, ceux qui théorisent les échanges économiques, après lesquels on a eu, bien sûr, les néoclassiques qui ont commencé à essayer de résoudre le problème de la rareté des subsistances et notamment celle des rendements décroissants dans la production de blé. Je pense à Adam Smith et il y a aussi David Ricardo. Et pas que. Donc, mais les physiocrates sont très importants puisqu'ils ont tout compris. Ils ont compris que le raisonnement économique partait du raisonnement de la rationalisation des productions agricoles et des biens issus de l'agriculture. Et ils disent que la terre est la mère de tous les biens. Et effectivement, on a souvent tendance à l'oublier. Aujourd'hui, qu'on veut aller sur Mars pour faire de l'écho, on a souvent tendance à oublier que on part de la terre et qu'il n'y aurait pas d'économie s'il n'y avait pas la nature. Les mercantilistes, après les physiocrates, il y a eu les mercantilistes, puis les néoclassiques, et puis toutes les théories économiques contemporaines, on en revient à aux théories de la croissance endogène que j'ai citées tout à l'heure. Toutes ces théories ont inspiré nos politiques quand ils mettent en place des politiques économiques. Et on en arrive au début du deuxième millénaire à la même conclusion, la boucle est bouclée. On avait commencé par dire la terre est la mère de tous les biens. Ensuite, on s'est un petit peu éloigné de tout ça dans la théorie économique et qu'on a mise en pratique. Et aujourd'hui, eh bien, la force des choses, la nature revient en force. Elle se rebelle, on le voit bien aujourd'hui avec les tempêtes, les incendies, les épidémies, et elle nous fait comprendre qu'il faut revenir aux physiocrates et commencer à comprendre le raisonnement économique par cet adage « la terre est la mère de tous les biens ». En témoignent les COP et les nombreux accords pris entre pays pour protéger la nature et l'environnement. Donc le paradigme concurrentiel qui visait à satisfaire les besoins des individus et des ménages pour finir par remplir tous les besoins a pris fin. On a mis en place des infrastructures qui permettent de combler les besoins des individus et d'une humanité sans cesse grandissante. Il faut continuer à le faire, mais aujourd'hui, il faut rajouter le paradigme qualitatif et environnemental si on ne veut pas y perdre nos sens économiques. Il y a derrière tout cela une exigence consistant à ce que ce modèle-là s'impose pour l'Afrique comme modèle de développement plus que partout ailleurs. Ainsi, de nombreux pays africains profitent déjà de la rente suscitée par l'environnement exceptionnel que leur apportent certaines réserves naturelles. Le reste de leur économie doit reposer sur le même paradigme, sachant, comme nous l'avons déjà dit plus haut, que pour des pays moins industrialisés que pour le reste du monde, cela doit être plus facile. Comment donc affecter cette théorie des cinq facteurs aux pays africains et s'en servir pour améliorer leurs économies et susciter leur propre take-off? L'expression de Rostow part d'un parti pris relatif aux économies extérieures via l'exportation lorsqu'un certain stade est déjà franchi. Il va de soi que notre raisonnement s'entend d'abord en dehors des ressources naturelles exportables. Et je finirai pour aujourd'hui en disant que comment on peut y arriver ? Eh bien en favorisant ce qu'on a expliqué l'autre jour, en favorisant les innovations frugales et en mettant en place des systèmes d'économie circulaire, ainsi qu'en utilisant chaque ressource suscitée par l'activité agricole ou industrielle pour en faire de nouveaux biens. Je terminerai mon économie aujourd'hui. Et on continuera la semaine prochaine toujours avec en prenant la suite et en essayant d'expliquer ce que c'est que le réencastrement, parce que finalement le réencastrement c'est une notion qui est fondamentale et je voudrais pas qu'on ait terminé ce cycle d'émission sans avoir vraiment compris ce que c'était. On a le temps. Passez, chers auditeurs, chères auditrices, une excellente fin de journée. Thank you.